importante des alertes Amber. On a resignalé une deuxième fois. Mm-hmm. Ben, il faut que les gens collaborent. Et comme le monsieur parlait tantôt, c'est important si vous êtes pas sûr, si vous avez des appelez la police, faites pas le justice, faites pas de ou pas que comme citoyen, on s'implique puis on fasse parce que cette personne-là, ben, on s'entend ne dort pas, stressé, mm-hmm. va prendre des mauvaises décisions. C'est une cascade de mauvaises décisions qui peuvent se prendre. Donc les policiers sont habitués de négocier avec ce type de personnes-là en état de crise. Et puis, on va l'approcher, puis on va s'assurer de la sécurité, et surtout de la sécurité des enfants. C'est ce qui est primordial, c'est de ramener tout le monde en vie.
Monsieur Laurier, on comprend que dans les dernières heures, là, les recherches se sont déplacées. On parle de cris qui auraient été entendus dans la forêt par des résidents du secteur. Comment les policiers traitent des informations comme celle-là? Parce que ce que l'on se rend compte, c'est qu'assez rapidement, ils se sont déplacés dans ce secteur-là. Est-ce qu'il arrive des fois où vous remettez un peu en cause la crédibilité de ces informations-là avant de vous y déplacer?
Ben, en fait, il y a des on s'en périmètre en l'accident à rivière avant que les qu'on appelle le connecting the dot en français, comment ouais. on dirait ça, de
rejoindre les points en fait, là.
Ouais. De rejoindre les points de ouais. chaque indice nous amène à aller plus loin. Donc, il n'y a rien qui n'est pas pris au sérieux. Chaque indice que je vous dis dans ce type d'enquête-là, tout est vérifié. Même si on a des doutes, on n'est pas là pour douter de l'information, on est là pour valider l'information, ça prend. Et les ressources ne sont pas problématiques. Dans ce type d'enquête-là, toutes les ressources sont déployées. Il y a des équipes partout au Québec, la Sûreté du Québec est capable de déployer rapidement des équipes terrain, des équipes de recherche, des équipes d'enquêteurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, c'est de valider l'information. C'est pas de oui, il y a des validations, oui, il y a des choses qui sont impossibles. Oui, des fois, il y a des gens, il y a des voyants qui appellent tout ça, mais
ben oui.
si on donne une information, on va la valider, on va la vérifier. Même si on sait qu'à la fin, la finalité peut être, ça peut être l'information peut être fausse, mais on prend pas de risque, on prend pas de chance.
Monsieur Laurier, dans le cas qui nous concerne présentement, on n'a pas eu d'indices dans les dernières 24 heures ou même plus depuis le déclenchement de l'alerte Amber de gens qui ont dit qu'ils avaient aperçu le père et ses deux petites filles. On n'a pas encore ça présentement comme indice. Je sais que dans d'autres cas et dans d'autres histoires, on avait une espèce d'espoir auquel on s'accrochait parce qu'on était capable de suivre la trace des personnes. Une telle personne a aperçu le véhicule à tel endroit. Bon, là, maintenant, on n'a rien qui nous dit que ces deux jeunes-là et ainsi que leur père sont encore en vie au moment où on se parle. Est-ce que ça teinte un petit peu l'enquête lorsqu'on se dit que peut-être que ce sont des cadavres, malheureusement, qu'on va retrouver?
Il n'y a rien qui dit le contraire non plus. Et puis, c'est faux de prétendre dans le sens où on ne sait pas. La police a des informations qui ne sont pas divulguées. Il y a des gens qui communiquent. On va demander de garder des informations. Oui, il y a des gens qui parlent aux médias. Oui, il y a des gens qui vont donner des informations publiquement via les médias sociaux. Mais les équipes d'enquête ont toujours des informations qui sont gardées secrètes, qui sont gardées à l'intérieur de l'enquête, qui sont primordiales sur des scènes de crime où on va ramasser un paquet d'informations, de renseignements. Donc, c'est faux. À ce temps-ci, c'est faux de prétendre qu'on ne sait pas qu'ils sont en vie. On a peut-être des indices qui le sont, mais on ne le divulguera pas.
Okay.
Pour des raisons d'enquête.
Fait qu'on peut, OK. Donc, on ne le sait pas, mais de par vos propos, je peux comprendre que peut-être qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas non plus. Là.
Non, c'est certainement, l'enquête n'est pas publique. Là. L'équipe d'enquête est assez serré, chef d'équipe, les enquêteurs, l'enquêteur principal, les affiants. Il y a des gens qui écrivent des mandats. Il y a plein de techniques d'enquête qui sont déployées présentement qui ne sont pas visibles parce que les équipes de recherche entendent des choses, les policiers entendent des choses, les patrouilleurs entendent des choses. C'est ramené à l'équipe d'enquête, c'est journalisé et je vous dis, chaque point est vraiment, chaque pierre est retournée. Il n'y a pas de chance à prendre. Et il y a des informations qu'on ne divulguera pas, c'est certain.
Monsieur Laurier, avant de vous quitter, j'essaie de me rapporter un petit peu à l'histoire de Cédrica Provencher. Puis je me souviens que les premières 24 heures, 48 heures, la première semaine, les premières semaines, en fait, il y avait du temps supplémentaire du côté des policiers. Toutes les ressources étaient déployées. Et à un moment donné, bien, au fil du temps, on commençait à abandonner certaines ressources ou du moins à ralentir un petit peu le rythme parce qu'on peut pas soutenir ça 24 sur 24 pendant 3 ans non plus, là. Et à un moment donné, on sentait que, bon, pas l'enquête en tant que telle ne s'est s'essoufflait pas, mais les effectifs sur le terrain et l'effort déployé sur le terrain forcément s'essoufflait parce qu'on n'a pas les moyens de toute façon d'avoir des centaines de policiers 24 sur 24 juste sur ce cas-là. Après combien de temps on commence à lever un petit peu la pédale sur un type d'enquête de disparition comme ça s'il n'y a pas de développement majeur?
Je vous dirais que on est encore très, très tôt dans l'enquête. C'est 24-7 sur 365. On a, les gestionnaires ne se posent pas cette question-là présentement. On va diminuer, si on parle d'une année, deux années, trois années, c'est sûr que okay. Si on a quadrillé, il n'y a pas d'indice, on a complètement fouillé, vidé des places, on ne va pas recommencer pour recommencer. Je prends l'exemple, il y avait un jeune enfant qui était disparu à Montréal-Nord l'hiver, donc on pense qu'il est allé dans l'eau. On a quadrillé. Je vous dis, on est très, très, très systématique. Hein. C'est pas il y a rien qui est laissé au hasard. Tout est fait systématiquement, tout est journalisé. Quand les patrons vont prendre la décision avec les enquêteurs de dire ben, à un moment donné, parce qu'il n'y a plus d'indices qui rentrent, parce qu'il n'y a plus d'informations qui rentrent, on va réactiver les médias, on va réactiver les médias sociaux, on va recontacter des témoins pour être sûr. On peut passer des polygraphes, on peut faire des entrevues cognitives. Il y a plein de techniques d'enquête qui sont ce type d'enquête-là qui sont déployées. Et je vous dis, le terme français, money is no object. Mm-hmm. Et puis, il n'y a aucune notion de temps. Et c'est les gestionnaires qui vont à un moment donné décider de lever la pédale, mais pour l'instant, on est à fond. Tout ce qu'on a comme ressources disponibles est sur cette enquête-là.
Et juste une dernière question avant de vous quitter, M. Laurier. Vous êtes quand même un ex-policier de la Sûreté du Québec. À quel point vous restez impliqué dans ce type d'histoire-là quand ça arrive dans les médias?
Ben nous, c'est-à-dire que moi, je travaille, vous allez voir plus tard, là, j'ai été convoqué par au niveau de la commission sur les actes sexuels contre les mineurs. Oui. On reste toujours impliqué. Je travaille dans une firme d'enquête. J'ai travaillé au niveau des enfants en feu, des filles qui sont en feu, qui sont dans les mains des professionnels. Oui, il y a toujours un attachement, entre guillemets, dans le sens que on reste toujours branché si on peut aider, comme parce qu'on est privilégié au niveau de la retraite, on reste toujours attaché, puis à essayer de servir le public. Je vous dirais que moi, dans mon cas, moi, ça a toujours été depuis 2014 que je suis parti de la Sûreté du Québec, mais je reste quand même comme un citoyen, je dirais. Et avec la formation, ben, j'essaie d'en faire profiter le plus possible.
Ben exactement. Vous êtes un citoyen, mais avec des qualifications que nous, on n'a pas, mettons. Fait que c'est toujours très, très utile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Laurier. Merci, bonne journée. Paul Laurier est un ex-policier de la Sûreté du Québec. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs policiers, en fait, qui ont quitté le corps de police pour lequel ils travaillaient, mais quand arrive une situation comme celle-là, ça doit être impossible de rester chez toi puis regarder ça d'un œil ordinaire comme n'importe quel citoyen. Tu connais les dessous des enquêtes, tu sais comment ça fonctionne, tu sais le sentiment qui habite les policiers sur le terrain présentement.
Certains veulent peut-être se porter comme bénévole.
Absolument, t'as raison. Puis ils ont des compétences, des qualifications que nous, que toi puis moi, on n'a pas parce qu'on n'a pas fait cette expérience-là, puis on n'a pas cette formation-là. Fait que c'est certain que c'est vraiment très, très utile là, d'avoir d'ex-policiers qui veulent se porter bénévoles comme ça. Écoutez, j'espère vraiment qu'on va avoir des nouvelles d'ici 18 heures. Le temps file. Ça fait maintenant, ils ont déclenché l'alerte Amber exactement à 15h30 hier, donc presque un petit peu plus de 24 heures.
Plus avant, vers 15 heures
sur le web. T'as raison.
Ça fait plus de 24 heures là, maintenant là, ouais. que ça a été déclenché et ça fait plus de 36 heures. Là, ça va faire ce soir, ça va faire deux jours que l'on est sans nouvelles
à
20h30, parce que c'est le dernier moment où elles ont été vues là, du côté de Lévis, là, à un dépanneur où elles devaient aller. Mais après ça, on n'a eu aucune autre nouvelle d'elles. Donc là, il y a de sérieuses questions qui se posent depuis le début. Là, ça reste extrêmement mystérieux comme histoire. Puis, je ne sais pas, peut-être avant d'aller à la pause, on peut peut-être réécouter justement le message qui a été publié par la Sûreté du Québec un peu plus tôt aujourd'hui. Il s'agit de Cathy Gingras, qui est la conjointe actuelle de Martin Carpentier, qui lui livrait un message poignant. Donc, je vous invite à écouter ça. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, sinon, je vous invite à réécouter.
Martin, on s'inquiète. On n'a pas eu de nouvelles de toi depuis l'accident. On se demande si t'es correct. Les filles, Romy, Nora, on veut savoir s'ils vont bien. Si toi, tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n'importe quoi. L'important, c'est que vous autres, vous alliez bien. Le reste, on s'en fout du reste. On veut juste savoir que vous êtes corrects.
93.3 pour signaler un problème sur la route. Pour intervenir en onde. Pour réagir. Composez étoile 93.3. Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion? C'est le moment de passer faire un tour dans la belle région de Saint-Raymond. Saint-Raymond, la ville de l'automobile. C'est quatre concessions de véhicules neufs. Hyundai Saint-Raymond, Germain Chevrolet, Dalton Ford, Saint-Raymond Toyota. Et toujours plus de 150 véhicules d'occasion en inventaire. Votre destination d'achat. Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond.
Les orthésistes du pied de Québec veulent prendre quelques secondes pour remercier les gens de Québec. Ils ont travaillé très fort, ont continué d'offrir leurs services légendaires et grâce à vous, ils en sont grandis. Pour vous remercier, ils vous offrent 30 % de rabais sur tous les produits Mephisto, sur les bottes de travail, les bottes bambou et sur leurs fameuses sandales. Leurs services sont toujours couverts par la plupart des assurances. Pour vos problèmes de pieds, de genoux et de hanches, les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Hey les peureux, cet été, faites comme moi. Lorsque vous aurez vraiment le goût de savourer du bon poulet Kentucky, rendez-vous dans l'un ou l'autre des trois restaurants PFK de Sainte-Marie-de-Beauce, Montmagny, Donnacona ou encore commandez en ligne pfkquebec.ca.
Les derniers mois vous ont fait réfléchir? Préparez l'avenir. Obtenez un diplôme en administration informatique Dessin Conception pour être prêt quand le marché reprendra de la vigueur. Une nouvelle carrière vous attend avec la formation continue du Cégep Limoilou. cégeplimoilou.ca.
On ne vit pleinement que lorsqu'on a l'esprit tranquille. Chez Volvo, c'est notre ligne de conduite depuis nos débuts. Nos véhicules ont toujours été pensés avec le confort et la sécurité de vos passagers en tête. En ces temps particuliers, rien n'est plus important que la certitude que tout ira bien. C'est l'événement Un été en toute sécurité. Chez Volvo de Québec, obtenez trois paiements gratuits en location sur plusieurs modèles, dont le XC60 et le XC90. Des conditions s'appliquent. Détails chez Volvo de Québec. VolvoDeQuébec.com.
Maboutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50%.
50% chez Espace Habitation GBI et chez Extermination Plus.
50% chez Sport au Plus Sainte-Foy, Spa Infinima et chez Toiture Pro Durable pour l'inspection ou la réfection de votre toit.
50% chez Pro Stationnement qui donne une deuxième vie à vos aménagements.
50% chez Pavage Express et chez Paysage Design.
Et 50% pour un plan d'entretien pour deux murales chez Réfrigération Everest. Commandez et on livre chez vous. Détail sur maboutiqueradio.ca.
Pour qu'une entreprise reste active longtemps, elle doit prendre soin de ses clients. Avec leurs 50 ans d'expérience, c'est clair que votre satisfaction est le moteur du succès de Paquette Nissan et Saint-Nicolas Nissan. Envie de rouler en Rogue 2020 édition spéciale? Louez-le sur 39 mois à partir de 349 $ par mois, zéro comptant. Financez-le à partir de 0% ou obtenez jusqu'à 5 000 $ de rabais. Avec en prime le programme de changement d'huile à vie. Détails pendant l'événement à nous la route chez paquettenissan.com ou saintnicolasnissan.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Taxi!
Pour un taxi, signalez Dièse Taxi sur votre téléphone mobile. C'est Dièse 8294 pour la première voiture disponible ou la compagnie de taxi de votre choix. La ligne n'est jamais occupée et le service est 24 heures partout au Canada. Prendre un taxi est plus simple que jamais. Planifiez d'avance aussi. Alors si vous buvez, ne conduisez pas. Composez le Dièse Taxi.
Le Dièse 8294 sur votre cellulaire.
Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 411.
Bonne nouvelle! Tous les Doulis sont maintenant ouverts avec tous les services. Et encore plus alléchant, on a une promotion Body Burger à 15 $. Que demander de plus? On est grand avec beaucoup d'espace pour vous recevoir chez Doulis.
Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
C'est Bouchard en parle.
Voici Élisabeth Crête.
Au FM 93.
Dans la circulation, on note une panne sur Duplessis Nord à la hauteur du boulevard Hochelaga. La voie de droite est bloquée actuellement, donc ça refoule dans le secteur. Sinon, l'approche du pont La Porte sur Henri IV en direction sud, ça refoule dès Quatre-Bourgeois. La 40 en direction ouest, eh bien, c'est tout juste passé l'échangeur Duplessis. Et également sur Henri IV en direction nord, c'est lourd dans le secteur des travaux, mais c'est comme à l'habitude depuis que les travaux sont en place. Et sinon, il reste sur Capitale en direction est. C'est tout juste avant Robert Bourassa et ça se poursuit sur une bonne longueur jusqu'à Pierre-Bertrand. Vous connaîtrez du ralentissement. Si vous êtes témoin de ralentissement ou d'accident, composez l'étoile 93.3.
On nous prévoyait 32 degrés avec un humidex de 41. Ben, on est en plein dessus présentement. Pour ce soir et cette nuit, 30% de probabilité d'averse tôt en la soirée avec un risque d'orage. Mais pour le moment, il n'y a vraiment rien qui nous menace point de vue pluie. Le minimum cette nuit sera 19. Demain, ce sera les restants de la tempête tropicale Fay qui seront la vedette du jour. Il va y avoir de la pluie toute la journée. Puis pas mal là, de ce qu'on prévoit, entre 20 et 40 mm de pluie. Ça va commencer tôt demain matin avec des averses, risque d'un orage. Ça va se continuer pendant la journée et risque d'un orage encore tôt en soirée pour demain. Et pour dimanche, c'est des averses aussi qu'on nous prévoit. Ce sera moins chaud, là, heureusement. On nous prévoit 24 demain comme maximum, mais l'humidex quand même sera à 32 et c'est 23 le maximum pour dimanche.
16h16 exactement. Ça a été très difficile de trouver une façon d'aborder ce sujet-là en meeting un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ouais. On se dit, il faut absolument qu'on parle de la vague de dénonciation qui a lieu présentement sur les réseaux sociaux.
Et c'est fou parce que là, presque à chaque heure...
C'est débile.
Il y a un nom qui sort, là.
Vraiment. Puis ça a été très difficile de l'aborder parce que j'ai un malaise, un très gros malaise avec cette façon de procéder-là. Mm-hmm. Puis je veux pas donner de la publicité à cette façon de faire-là. Mais en même temps, en fait, après l'alerte Amber, parce que ça, c'est vraiment la big affaire au Québec présentement. Mais disons qu'en deuxième position, pas très loin derrière, il y a vraiment la vague de dénonciation présentement qui déferle sur le Québec, qui est dans le talk of the town, comme on dit. Je pense qu'à la machine à café, ce matin, il y a beaucoup de gens qui parlent de Marie-Pierre Morin et des autres noms qui commence à sortir. Alors, la façon qu'on a décidé d'aborder ce sujet-là, premièrement, il faut savoir qu'il y a énormément de noms d'artistes et de personnalités publiques qui ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux, mais on ne va nommer uniquement que ceux qui ont fait une sortie eux-mêmes par la suite, soit pour s'excuser, soit pour se retirer, ou bref, qui ont fait une déclaration publique. Étant donné qu'eux-mêmes ont fait une déclaration publique et ont réagi aux allégations, ces personnes-là, je vais les nommer. Les autres, par contre, je n'embarque pas là-dedans. J'embarquerai pas là-dedans. Alors, si vous voulez trouver des noms, il y en a en masse sur Internet de toute façon. Et il y a une question qu'on s'est posée en meeting ce matin, en regardant tout ça, puis je vous dis, ça va très vite, là. À chaque heure, il y a une nouvelle personnalité publique dont le nom sort, puis qui commence à perdre des commanditaires, puis qui commence à perdre des contrats. Ça va vraiment très, très vite.
Ou qui se font larguer tout simplement par leur compagnie de gérance ou leur label de musique. Là.
Oui, voilà. Tu as tout à fait raison. C'est le cas de certains chanteurs, entre autres. Là. Et puis pour Marie-Pierre Morin, en passant, si ça vous intéresse, Hugo Dumas nous a informé hier soir que Bloch Lingerie, Bon Look, Marché Good Food, Reebok et Bell Media et Buick Canada, donc pratiquement tous ces commanditaires, s'étaient soit dissociés de Marie-Pierre Morin ou encore avaient décidé de ne pas renouveler leur contrat ou leur entente avec elle. Alors, c'est une déchéance totale. En 24 heures, elle a carrément tout perdu. Tout perdu, sauf TVA pour l'instant.
Ben, c'est ça. Et son image, c'est la manière dont elle fait de l'argent. C'est tout.
Oui.
C'est tout parce que si elle perd ça, c'est difficile après ça pour elle.
Et ça, c'est un point hyper important, Joe, parce que ce qu'on se disait, en fait, ce matin, c'est si la même histoire, si les mêmes faits et gestes étaient reprochés à quelqu'un qui n'est pas Marie-Pierre Morin, quelqu'un qui est, par exemple, technicienne en laboratoire chez Jean Coutu, cette personne-là ne perdrait pas tout comme Marie-Pierre Morin perd tout présentement parce qu'elle ne vit pas de son image. Elle vit de ses compétences qu'elle a développées au fil du temps. Elle aurait probablement des conséquences. Par contre, les conséquences seraient loin d'être à la hauteur des conséquences que Marie-Pierre Morin vit présentement.
Non, puis là, il n'est pas question de casier judiciaire, là. Donc, c'est des allégations. Peut-être qu'elle serait rentrée dans le bureau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
Oui.
Mais il n'y aurait pas nécessairement d'excuses publiques. Puis après ça, de dire, je vais m'en aller en thérapie parce que là, ça semble être la mode. Si tu veux rencontrer une vedette dans les jours
prochaines
suivants,
années,
là, dans les prochaines semaines, là, entre en thérapie.
Oui.
Puis ça se peut que tu en rencontres.
Je pense qu'ils vont être une couple, là, effectivement.
Mais j'ai une question, moi.
Oui.
Mettons que le nom de quelqu'un qui n'est pas connu est sur la liste et que vous êtes l'employeur de cette personne-là, vous faites quoi?
Bien, en tant que tel, c'est quoi les conséquences pour l'employeur si personne ne sait qu'il est employé là?
Oui, mais ça, si son nom est écrit puis qu'on dit cette personne X-là travaille à la compagnie Y,
Ben, ça va dépendre à quel point cette information-là va débouler. Mais si hier, mettons, il y a l'employeur d'une compagnie X qui est sorti, puis que dans une semaine, plus personne parle de cette personne-là parce qu'il n'est pas connu, les impacts pour la compagnie sont assez zéro, en fait.
Ouais,
je pense que l'idée de pourquoi on largue un artiste public, c'est parce que les dommages pour l'entreprise qu'on représente sont très, très grands. Et quand tu es une personnalité connue, tout le monde sait pour qui tu travailles et tout le monde sait à quelle compagnie tu es attaché. Alors là, quand tu deviens cette compagnie-là qui est pointée du doigt, puis « Hey, vous autres, vous supportez Marie-Pierre Morin depuis longtemps », tu n'as pas le choix de te dissocier pour sauver ta propre image à toi. Sinon, tu vas couler en même temps que l'artiste qui est visé. Mais là, la question qu'on se posait devant le fait que les conséquences pour des artistes ou les personnalités connues sont beaucoup, beaucoup plus grandes que pour un quidam qui va être nommé là, dans cette liste-là, on s'entend là-dessus. Est-ce qu'au niveau légal, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu dangereux dans cette façon de procéder-là? Parce qu'il n'y a aucune vérification qui est faite, ce sont des allégations, c'est pitché sur la place publique et quelques heures après, l'artiste est largué par à peu près tout ce qui est associé à lui en temps normal. Contrat, commanditaire, publicité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça au niveau légal qui est un petit peu dangereux ou qui pourrait être touché là-dedans? Alors, pour le savoir, je me suis entretenue avec Maître Vincent Gingras un petit peu plus tôt aujourd'hui. Lui, c'est un avocat, justement, en droit de l'image et diffamation et réputation. Et la première question que j'ai posée à Maître Gingras, en tant qu'avocat et en tant que personne qui a représenté des clients qui ont vu leur réputation être ternie par des propos diffamatoires ou différentes histoires, et là, en passant, je suis pas en train de dire que ce qui est publié présentement sur les réseaux sociaux, ce sont des propos diffamatoires, il y a probablement des histoires là-dedans qui sont fondées à 100%. Par contre, j'émets une nuance en disant qu'il y a peut-être aussi des propos où il y a peut-être des artistes présentement qui sont visés par des allégations et qui perdent tout, alors que peut-être qu'ils ne devraient pas perdre de tout à ce stade-ci, à moins de 24 heures après les dites allégations. On fait juste émettre certaines nuances ici, présentement, puis je pense que ce sont des nuances qu'on doit faire. Alors, on ne condamne pas du tout le mouvement, bien au contraire, je pense qu'il y a quand même quelque chose de sain dans l'idée de dénoncer des comportements qui sont inappropriés. Ouais. Faut juste faire attention à la façon de le faire. Et là, je m'inquiète pas nécessairement pour les artistes qui sont visés par les allégations, mais aussi pour les personnes qui font ces allégations-là. Parce qu'en m'entretenant avec M. Vincent Gingras, j'ai réalisé que les conséquences pour vous peuvent être extrêmement graves en dénonçant sur les réseaux sociaux un artiste qui aurait commis des gestes comme ça. Et c'est là où je pense que vous allez être intéressé par l'entrevue suivante. Alors, Maître Vincent Gingras, comme je disais, est avocat en droit de l'image, en diffamation et en réputation. La première question que j'ai posée, c'est est-ce que c'est dangereux le mouvement de dénonciation sur les réseaux sociaux auquel on assiste présentement? Est-ce que vous, en tant qu'avocat et en tant que personne qui traitez avec la loi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est atteint présentement au niveau de la loi qui peut être dangereux?
Ben, c'est dangereux pour ceux qui lancent ces accusations-là sur les réseaux sociaux, mais aussi pour les personnes qui le reçoivent. Ceux qui lancent des accusations comme ça sur les réseaux sociaux, moi, si c'était mes clients, je leur recommanderais une immense prudence. Là, on a des réseaux sociaux qui, en quelques secondes, vont être diffusés partout. Ça peut être diffusé au Québec, partout dans le monde, en quelques secondes. Les dommages à ceux où les accusations sont adressées peut être plus grande en raison de la diffusion qui est plus large. Plus une diffusion est large en matière de diffamation, plus le dommage est grand. Et dans ce cas-ci, c'est encore plus grand parce que les réseaux sociaux, ils n'ont plus de frontières. Donc, quand on fait une accusation sur la base de faits, moi, ceux qui lancent des accusations comme avocat, quand je le reçois comme citoyen, parce que je suis aussi citoyen, bien entendu, je suis premièrement citoyen avant d'être avocat, mais les citoyens, les personnes qui lancent ça, je leur dirais, attention, grande prudence.
Alors, vous avez compris, là, prudence pour ceux qui lancent ces allégations-là. Parce que premièrement, vous savez pas du tout qui est au bout des allégations. Et puis je peux vous dire qu'il y a deux petites filles qui ont accusé Justin Bieber dans les dernières semaines, qui le payent en ce moment très très cher parce qu'elles sont poursuivies par Justin Bieber. Pas juste des mises en demeure, elles sont poursuivies par Justin Bieber pour atteinte à la réputation. Et si elles perdent cette cause-là, ça va leur coûter excessivement cher. Et ce même si les allégations contre Justin Bieber ont un fondement de vérité. Puis ça, vous allez l'apprendre plus tard dans l'entrevue là. Même si la base des allégations est vraie, il se peut quand même que ce soit de la diffamation. Même si ce que vous dites est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne, la loi. Et c'est pour ça, je pense, qu'avant d'aller sur les réseaux sociaux pour dénoncer, bien, premièrement, la meilleure façon de faire, c'est de passer par les tribunaux. Mais aussi, si vous voulez pas passer par les tribunaux, lâchez un petit coup de fil à un avocat. Lui va vous dire si c'est une bonne idée que vous alliez sur les réseaux sociaux ou non. Parce que si les deux petites filles qui ont accusé Justin Bieber avaient passé par un avocat avant, probablement qu'elles seraient pas dans le trouble comme elles le sont présentement. Ensuite, ce que j'ai demandé à M. Gingras, c'est si un artiste ou une personnalité publique a été ciblée par des allégations d'harcèlement sexuel ou encore d'agression sexuelle. Si cette personne-là est convaincue d'avoir rien à se reprocher, moi, je suis l'artiste qui reçoit ces allégations-là, puis je suis sûre que j'ai rien fait de mal, sauf que là, je suis en train de tout perdre autour de moi. Qu'est-ce que vous lui conseillez à cet artiste-là?
Si, exemple, il y a un artiste, là, il y a des artistes qui ont été sujets à ces accusations-là sur les réseaux sociaux, viennent me voir. On va parler de Marika Morin, d'Adamus. C'est des gens qui ont comme instrument de travail leur image et leur création. Si je regarde Marika Morin, bon, elle fait des émissions parce qu'elle a une image. Et si on brise l'image, c'est comme si on enlevait un homme ou une femme qui est en construction, ses instruments de travail. Et plus on atteint l'image de cette personne-là, plus ça coûte cher. Et en matière de diffamation, il y a trois types de dommages possibles. Les dommages moraux, c'est-à-dire le sentiment que la personne a lorsqu'elle est victime d'une attaque diffamatoire. Ensuite, tu as les dommages matériels. J'ai perdu en l'espace d'une journée tous mes contrats. Puis troisièmement, il y a un dommage qui est un dommage qu'on appelle punitif, pour éviter que ça se reproduise. Je t'impose un dommage pour pas que tu recommences. Puis ce dommage-là, il est en fonction, notamment, de la valeur du patrimoine de la personne qui lance les accusations. Alors, exemple, si c'est Apple qui lance une affirmation diffamatoire...
Fait qu'ils vont payer plus qu'un individu, par exemple, qui lance une accusation.
Par exemple, si je vaux 4 milliards, ben, si j'ai des dommages punitifs de 5 000, c'est pas suffisant.
Ouais, puis c'est un peu normal. Puis il faut penser aussi qu'il y a la solvabilité. Là, à un moment donné, t'as beau réclamer 2 millions à quelqu'un, s'il en vaut juste 50 000, ben plate, ça tu le verras pas. Même s'il est condamné à payer 2 millions, tu l'auras pas. Là, tu verras pas la couleur de cet argent-là.
Oui, exact. C'est un très, très bon point. Mais reste que vous voyez à quel point ça peut aller loin des poursuites en diffamation. Hein? Puis vous allez avoir des détails sur qu'est-ce que c'est une diffamation un petit peu plus tard. Puis je pense que vous allez faire le saut. La prochaine question, puis la prochaine information que vous allez recevoir, elle est très importante. Depuis tantôt, au 25226, vous êtes plusieurs à écrire « Oui, mais elle s'est excusée, Marie-Pierre. Oui, mais ils font des excuses publiques. Alors, ils reconnaissent leur culpabilité. Oui, mais s'ils font une sortie en s'excusant, ils sont en train de dire qu'ils sont coupables. » Pas vraiment.
Pas au sens de la loi.
Pas au sens de la loi. Il y a eu une modification dans la loi très récemment qui parle spécifiquement des excuses publiques. Marie-Pierre s'est excusée, alors elle admet ses torts. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Là, je vais vous donner juste une petite modification législative qu'on a actuellement. C'est qu'il y a eu un projet de loi qui a passé en juin, je pense. C'est le projet de loi 55. Les gens l'ont entendu parler parce que c'est le projet de loi qui abolit les délais de prescription si je suis agressé sexuellement. Sauf que dans ce projet de loi, il y a une disposition où on dit maintenant les excuses ne constituent pas un aveu. Oh, ils ne peuvent pas être utilisés en cours pour une reconnaissance de responsabilité ou une reconnaissance de ce qui s'est passé. Donc, depuis, je pense, le 12 juin, une personne qui s'excuse, puis on en a exemple, Marc-Pierre Morin, ces excuses-là ne peuvent plus être autorisées comme aveu. Il ne peut plus être autorisé en cours. Donc, ça fait en sorte que malgré le fait, notamment, Marie-Pierre Morin qui s'est excusée, ça ne serait pas un empêchement, si les propos sont diffamatoires envers Mme Morin, qu'elle puisse engager des recours en diffamation.
Ça, c'est majeur en passant, ce petit changement-là. Là. Vous avez compris que c'est arrivé très récemment. Peut-être qu'on pensait pas que dans l'actualité, il y aurait une histoire qui nous permettrait d'en parler parce que c'est un détail dans la loi, mais c'est un détail qui prend tout son sens aujourd'hui.
Et c'est vrai que ça a été occulté comme détail avec la question des délais de prescription. C'est parce que on a regardé ça principalement, mais souvent dans les projets de loi, c'est comme ça que ça va se passer.
Ouais.
Il va y avoir une mesure qui je vous dirais, est la principale, mais il va y avoir plein d'autres détails. Et vous savez, le diable est dans les détails.
Absolument. Alors là, vous avez compris. Pour tous ceux qui disent « Marie-Pierre Morin a avoué, elle a avoué, elle s'est excusée, elle a avoué », au sens de la loi, pas tout à fait. Les excuses publiques qu'elle a faites dans les derniers jours, si jamais elle décide d'entreprendre une poursuite en diffamation parce qu'elle considère qu'elle a été diffamée, ces excuses-là ne pourront pas être admises en preuve. Alors ça, c'est un changement qui est majeur. C'est un game changer dans ce qu'on vit présentement.
Ouais.
Et honnêtement, je me demande même si il y a pas des gens, des avocats qui conseillent les artistes présentement dans le mouvement qu'on vient. En tout cas, s'ils les conseillaient pas il y a deux jours, je suis pas mal sûr qu'il y a eu des appels là, dans les dernières 24 heures.
Hier, on parlait avec les gens de Jury Pop et une des choses qu'ils mentionnent, c'est qu'ils sont débordés d'appels. Oui, débordés d'appels de gens qui se demandent qu'est-ce que je fais. Est-ce que je dénonce à la police? Est-ce que je dénonce sur les réseaux sociaux? Mais aussi débordés d'appels de gens qui reçoivent des mises en demeure.
Absolument. Et le prochain point aussi, il est hyper important. Moi, dans ma tête, ça, je l'ai un petit peu appris, parce que dans ma tête, une information, en fait, une allégation n'était pas diffamatoire si elle était vraie. Dans le sens que si j'énonce une vérité sur la place publique, c'est pas de la diffamation, c'est vrai ce que je dis. C'est pas moi, dans ma tête, la diffamation, c'est un mensonge pour nuire à quelqu'un, pour nuire à l'image de quelqu'un.
Ben, et je pense qu'il y a une différence entre le dire à son entourage puis aller le crier sur tous les toits.
Ben, c'est ça.
Et les réseaux sociaux, c'est de le crier sur tous les toits.
Puis ce point-là, il est hyper important. Écoutez bien, Maître Gingras, est-ce qu'une allégation peut être de la diffamation, même si c'est vrai?
En matière de diffamation, c'est pas parce que c'est vrai que c'est pas de la diffamation. Je vous donne un exemple. Ça dépend toujours de la motivation. Je suis un mari jaloux. Je vous donne l'exemple. Ma femme a un amant. Parce que je suis pas content, je publie des propos diffamatoires disant tel homme couche avec ma femme, puis je répète ça. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est dans l'intérêt du public que ça soit diffusé, malgré que le fait que ça soit vrai? Ça peut constituer également, même si les propos sont vrais, de la diffamation. Ça dépend toujours des circonstances.
Et là, vous comprendrez qu'il y a un bel espace de discussion sur est-ce que tel geste qui a été posé ou qui aurait été posé par tel artiste est d'intérêt public. Et je ne sais pas s'il y a des histoires qui sont en train de sortir présentement qui vont éventuellement se rendre en cours, mais je pense que sur ce point-là particulièrement, il va y avoir des débats et il va y avoir un espace de discussion. Je vais donner un exemple très clair. Les gestes posés par Gilbert Rozon, aucun doute que c'est d'intérêt public. C'est une figure qui est connue au Québec. C'est une figure qu'on a invitée dans des talk shows, qu'on a admiré. On était donc content de tout ce qu'il avait réalisé, juste pour rire. Et là, on apprend qu'il a commis des gestes comme ça. C'est 100% d'intérêt public. Il faut, comme public, qu'on sache exactement à qui on a affaire. Mais là, il pourrait y avoir des gestes qui s'apparentent à ceux que Marie-Pierre Morin aurait posés le soir du 28 mai 2018, si je ne me trompe pas. Je ne dis pas que ce sont ces gestes-là, mais des gestes qui s'apparentent à ça. Mais là, un avocat pourrait dire, moi, je vais aller plaider en cours que la gravité de ce geste-là, je ne sais pas si c'était d'intérêt public à ce point-là. On va en discuter. Il est là, ici, le problème. Quand je dis qu'un geste peut être vrai, mais peut quand même être de la diffamation, il faut faire très attention quand on sort avec une information comme celle-là.
Et c'est qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a des comptes qui répertorient des cas comme ceux-là. Tu vas avoir des gros noms et tu vas avoir aussi des photographes, des tatoueurs là, qui sont mêlés à ça. Est-ce qu'ils ont à être mêlés à ces mêmes gros noms-là? Est-ce que c'est la même gravité dans tous les cas? Parce que là, les gens vont avoir tendance dans leur esprit à mettre tout ça dans le même panier.
T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, Joe. Puis M. Gingras a parlé aussi que tout dépendait de la motivation de la personne qui dénonçait. Je vais vous donner un exemple fictif. Je vais sur la place publique, Joe, puis je t'accuse d'un geste en particulier que t'as fait à mon endroit pour X raisons. Un geste qui est déplacé, mais qui n'entre pas nécessairement dans la catégorie du harcèlement, parce que harcèlement, c'est une action qui est répétée, ni d'agression sexuelle. Mais c'est un geste qui est déplacé, puis je pense que les gens ont besoin de savoir. Mais là, plus tard, toi, tu considères que t'as rien fait de mal, tu me poursuis, et là, on apprend plus tard dans l'enquête que je t'en voulais pour X raisons. Tu m'as fait de la peine, tu m'as brisé le cœur, ou t'as fait de la peine à ma mère pour X raisons. Et j'avais envie de te nuire à ta réputation. Là, l'avocat qui va prendre ça en compte va dire, Madame Crête, votre motivation derrière cette dénonciation-là, c'était quoi? C'était-tu pour servir vos intérêts personnels ou c'était vraiment pour l'intérêt public, pour empêcher que Jonathan recommence ce geste-là? Et là, ça aussi, peut y avoir un bel espace de discussion en cours. Et Dieu sait où, de quel bord le vent va tourner. Là,
et c'est un des arguments qui est tenu par plusieurs des dénonciateurs, là, peu importe, là, on ne fera pas de sexisme. Là. C'est une des choses qui est dit. Ils disent, on ne veut pas nécessairement obtenir justice. Ce que l'on veut, c'est que la personne arrête.
Oui, tu as tout à fait raison. Mais si c'est ça, vos motivations, ben là, ce sont des motivations qui, à quelque part, sont logiques et parce que vous avez vraiment le bien de la communauté à cœur. Mais moi, je vous le dis, si vous avez l'intention d'embarquer dans ce mouvement-là puis de faire une dénonciation publique sur les réseaux sociaux, appelez un avocat avant. appelez un avocat, racontez votre histoire et demandez-lui si c'est une bonne idée d'y aller. Parce que des fois, on ne sait pas à qui on s'attaque. On ne sait pas qui est au bout de toute cette histoire-là, puis comment cette personne-là va réagir. Puis si vous pognez quelqu'un qui est comme Justin Bieber, il va vous sacrer une poursuite par la tête. Puis là, vous êtes deux jeunes filles qui n'ont pas nécessairement de moyens, qui n'ont pas nécessairement de ressources non plus, et sont pognées avec une vedette énorme, avec plein de cash qui les poursuit. Alors, consultez un avocat. Puis je pense que c'est, en fait, c'est ce que Maître Gingras avait comme message à lancer à la fin. Si vous êtes touché par des allégations, bien évidemment, consultez un avocat. Et si vous voulez lancer des accusations, là aussi, consultez un avocat. Parce que dans les deux cas, au bout de la ligne, vous pourriez être dans le trouble. C'est une possibilité qui existe parce qu'on vit dans une société où il y a un cadre de loi. Et ce cadre de loi-là, on doit le respecter jusqu'à un certain point. Alors, la façon de faire, puis qui est préconisée par, je pense, tous les avocats puis tous ceux qui baignent dans le milieu de la justice, c'est de faire affaire avec le système de justice en bonne et due forme. Ils sont là pour vous écouter et pour éventuellement aller plus loin dans cette histoire-là et surtout en respectant le cadre légal, en fait d'utiliser les moyens légaux. Et si vous voulez passer par en arrière, consultez un avocat d'abord quand même pour vous protéger, vous. Et puis là, c'est même pas pour protéger la personne que vous voulez dénoncer. Là, je parle vraiment pour ceux qui veulent dénoncer. Vous êtes convaincu d'avoir vécu une situation qui mérite d'être dénoncée. Puis sincèrement, vous avez probablement raison. Mais protégez-vous aussi et appelez un avocat avant.
Et je veux revenir sur ce qui a été mentionné dans l'entrevue que tu as réalisée avec Maître
Vincent Gingras.
Maître Gingras, à propos des excuses qui ne peuvent pas être retenues contre la personne. Est-ce que c'est ce pourquoi on assiste actuellement à une vague d'excuses? Parce que, un après l'autre, ces artistes-là s'excusent. Chose qu'on voyait peut-être un peu moins fréquemment. Les autres niaient les informations. Là, tout le monde s'excuse, ça paraît bien, OK, parfait. Tout le monde va en thérapie, c'est de même que ça fonctionne. Tout le monde arrête sa carrière momentanément pour essayer peut-être de la reprendre plus tard quand la poussière va être tombée. Mais est-ce que c'est ça pourquoi on assiste aujourd'hui à une vague d'excuses après la vague de dénonciation?
Écoute, moi, Joe, je présume de rien, là, mais je pense, c'est une hypothèse que je fais, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs bureaux d'avocats qui vont recevoir des appels. Puis c'était peut-être pas le cas il y a une semaine. Mais là, on est dans un mouvement qui part de tout bord, tout côté. Là. Ouais. Puis on a perdu un petit peu le contrôle, je pense, dans les dernières heures. Là. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui vont recevoir des conseils d'avocats. Et avec cette nouvelle disposition-là à la loi, moi, j'aurais pensé que l'avocat allait dire à ces personnes-là, bien, fermez vos gueules, là. Faites pas d'excuses publiques, là. Fermez vos gueules, effacez-vous. Ben, mais avec ce que je comprends, c'est que tu peux très bien conseiller à la personne ou à ton client, garde, fais des excuses publiques, là. Tu vas au moins t'attirer la sympathie d'une couple de personnes. Puis inquiète-toi pas, si jamais on va plus loin avec ça, là, ça comptera pas. Ça peut être ça maintenant, là, tu sais.
Oui.
Moi, l'autre question que j'ai, là,
ouais.
D'habitude, quand il y a eu des vagues comme ça, ça s'expliquait par, mettons, l'affaire Roson, l'affaire Salvaille. C'était quelqu'un, là, il y avait quelque chose dans l'actu...
quelque part, c'est là, ça. Ouais.
Celle-là, là, à moins que je dorme au gaz, là, je sais pas d'où ça part. J'ai rien vu qui expliquait ça.
Oui, bien écoute, tu vois, les accusations sur Justin Bieber, ça date quand même d'une couple de semaines. Je pense qu'à l'international, le mouvement est parti pas mal avant le Québec. Là. Et finalement, est-ce que ça a été un cas en particulier? Je sais pas, c'est une bonne question. Mais je peux dire qu'à l'international, la vague de dénonciation, ça fait déjà une couple de semaines qu'elle est entamée.
C'est-tu l'affaire Maxwell? Là? L'affaire Epstein-Maxwell? C'est-tu encore ça?
Non, je pense pas.
Ben, Bieber, c'était avant qu'elle soit arrêtée. Ouais. Fait que,
après ça, il y a eu l'arrestation de Mme Maxwell.
Ouais. Je sais pas.
À part ça, là,
ce que l'on comprend,
rien.
C'est que ça vient vraiment des réseaux sociaux. Dans les autres cas, c'était souvent dans les médias traditionnels. C'est comme ça que ça fonctionnait. Là, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas autant... On s'entend qu'habituellement, dans les médias traditionnels, les médias doivent faire des vérifications afin de s'assurer de la véracité de ce que du témoignage et s'assurer que la personne est crédible. Parce que aussi, le média, par la suite, peut être poursuivi en diffamation. Là, sur les réseaux sociaux, on dirait qu'il semble y avoir une impunité qui est peut-être un peu plus grande et peut-être moins de vérification. C'est pas parce que je dis que je crois pas les victimes. C'est pas ça que je dis. Sauf que faut faire attention aussi. C'est facile d'y aller d'accusation sans que ce soit vérifié.
Mais il y a quelqu'un qui a parti ça quelque part. Là. Je me demande d'où ça, qui
ouais.
a parti ça.
Ben c'est écoute, c'est la troisième vague. Oui, c'est sur Instagram. C'est la troisième vague qu'on vit depuis plusieurs années. La dernière vague, c'était en 2016. Alors, écoute, on va suivre ça de près. Là, mais écoutez, c'est capoté. Les noms, là, c'est à peu près 10 à l'heure là, qui sortent. Là. Alors, puis évidemment, je veux dire, ça vient aussi avec des conséquences dans le milieu du showbiz. Il y a des noms qui sortent, puis tu dis, mon Dieu, jamais j'aurais pensé. Alors, on va continuer à suivre ça, mais en ce qui nous concerne ici au FM 93, on ne nommera pas des noms qui n'ont pas réagi eux-mêmes publiquement. Pour la simple et bonne raison que c'est pas une dénonciation sur le web sans vérification, sans rien qu'on peut faire ou dans laquelle on peut embarquer nous-mêmes en tant que médias. Là, je pense qu'on a quand même une certaine responsabilité. Ceci dit, si un artiste ou une personnalité publique a été visée par des allégations et a elle-même réagi, ben là, ça nous dédouane, ça nous donne le droit de nommer cette personne-là. Mais autrement que ça, on se doit d'être prudent aussi. C'est pas parce qu'il y a un mouvement présentement qui a lieu puis tout le monde se permet de nommer des noms que nous, on peut embarquer là-dedans. Je pense que ça vient quand même avec une certaine responsabilité. 25226, si vous voulez ajouter quelque chose.
Bonjour, je m'appelle Renald Carbonneau, représentant des ventes chez Idéal Revêtement pour Québec et la région. J'ai un message important pour vous. C'est certain que la COVID-19 a plus que fait embarder nos vies dernièrement. Pour vous aider et relancer l'économie, profitez du prix employé sur notre toiture d'acier résidentiel. Oui, vous pouvez maintenant économiser 10% sur le prix du manufacturier. Pour plus de détails, voyez notre site web.
Idéal Revêtement. Avec l'acier, vous n'aurez plus jamais à refaire le toit. idéalrevêtement.ca.
Les orthésistes du pied de Québec veulent prendre quelques secondes pour remercier les gens de Québec. Ils ont travaillé très fort, ont continué d'offrir leurs services légendaires et grâce à vous, ils en sont grandis. Pour vous remercier, ils vous offrent 30% de rabais sur tous les produits Mephisto, sur les bottes de travail, les bottes bambou et sur leurs fameuses sandales. Leurs services sont toujours couverts par la plupart des assurances. Pour vos problèmes de pieds, de genoux et de hanches, les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Coucou, c'est Claudia Marquez. Mon amoureux et moi sommes d'accord sur presque tout, sauf notre matelas. Trop mou, trop dur, on n'arrivait pas à s'entendre. C'est pourquoi notre lit Réglable Style de Vie a tout changé. Les experts de Dormez-vous nous ont aidés à choisir le lit idéal. Nous pouvons maintenant contrôler la position de la tête et des pieds de manière indépendante pour trouver un sommeil profond et récupérateur. Enfin, on est d'accord! Dès maintenant, achetez n'importe quel lit réglable d'obtenir un remboursement de 15% sur une carte cadeau Dormez-vous. Des restrictions s'appliquent, voir les détails en magasin.
Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres. Ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Je parle avec Michel de Céramique L'Entrepôt.
Salut Sylvain.
Michel, mettons que t'as un client qui te dit qu'ailleurs, ils ont une vente de 10, 20 ou 30% de rabais. Tu réponds quoi à ça?
Ben Sylvain, c'est pas compliqué. Que ce soit sur les planchers flotteurs, les pierres murales, le vinyle clic ou la céramique, notre volume d'achat fait que chez Céramique L'Entrepôt, on offre des économies de 10 à 40%, mais tout le temps. C'est ça qu'on appelle chez nous le prix palette.
C'est assez clair, merci. Alors pour des économies à l'année, allez chez l'incontournable à Québec, Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Tout le monde en parle.
Citadel Chevrolet.
Citadel Chevrolet.
Citadel Chevrolet, la référence à Québec pour vous procurer un Buick Encore. Offrez-vous un essai routier du tout nouveau Buick Encore GX 2020. Un peu plus grand que l'Encore régulier et un peu plus petit que l'Equinox. Élégant, agile et ingénieux à découvrir absolument. Vous cherchez un Cadillac? Venez essayer les XT4. XT5, CT4 et CT5. Ici, les véhicules d'essai sont désinfectés avant et après l'essai. Et nous fournissons les masques.
Citadel Chevrolet.
Citadel Chevrolet.
Tous les détails chez Citadel Chevrolet à Lévis.
Avec Taxi Coop 5191, c'est simple. Peu importe l'endroit où vous habitez, partout dans la grande région de Québec, ils vous conduisent en toute sécurité. Besoin de sortir? Taxi Coop 5191. 24 heures sur 24. Téléchargez maintenant l'application Taxi Coop.
Si vous pouvez compter sur vos réseaux d'amis pour échanger, vos réseaux de collègues pour collaborer, vos réseaux sociaux pour partager, ou vos réseaux télé pour vous divertir, c'est d'abord parce qu'il y a des réseaux sur lesquels vous pouvez compter. Cogeco, Eastlink, Rogers, Sha, Vidéotron. Consultez nos réseaux pour vous.ca.
Taxi!
Pour un taxi, signalez Dièse Taxi sur votre téléphone mobile. C'est Dièse 8294 pour la première voiture disponible ou la compagnie de taxi de votre choix. La ligne n'est jamais occupée et le service est 24 heures partout au Canada. Prendre un taxi est plus simple que jamais. Planifiez d'avance aussi. Alors si vous buvez, ne conduisez pas. Composez le Dièse Taxi.
Le Dièse 8294 sur votre cellulaire.
Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 411.
C'est Bouchard en parle.
Avec FM 93.
93. Ça fait longtemps qu'on a parlé de circulation, hein?
Ouais, puis il y a quelque chose qui se passe, c'est sur le boulevard Henri Bourassa en direction nord, devant l'hôpital de l'Enfant Jésus. Si jamais vous êtes dans le secteur et que vous savez qu'est-ce qui se passe dans le coin, il y a des auditeurs qui nous écrivent, qui nous parlent d'un stationnement puis que les gens s'impatientent sur les lieux. Donc, n'hésitez pas, étoile 93.3. Si vous êtes passager, eh bien vous pouvez aussi nous envoyer par texto au 25226.
Si vous êtes immobilisé, bien sûr, à l'intérieur.
Non, mais si vous êtes passager.
Ah, ok, passager, excuse-moi, ok, oui.
Quand même.
C'est ça, je te
pour leur dire. Ah oui, texto, voilà.
Ouais, c'est ça, allez-y.
Ah oui.
Allez-y, allez-y. Ben écoute, Jonathan, tu sais que si on a éventuellement un tramway à Québec, il y a de moins en moins de gens qui vont prendre leur véhicule, alors ils vont pouvoir texter à l'intérieur du tramway.
Mm-hmm.
Mais là, ça, c'est si tramway il y a. On se dirait qu'il y a de plus en plus de sable dans l'engrenage du projet de tramway. Et je vais répéter la nouvelle qu'on a sortie en début de semaine, parce que je pensais pas qu'on aurait en fait une réaction de la Ville de Québec là-dessus, mais on en a eu une.
Ah ben normal, j'aurais sollicité une réaction du maire, mais
t'es
bon,
occupée.
Comme je n'étais pas sur le terrain puis que j'étais avec toi en studio, j'ai pas eu l'occasion.
Mais oui, écoute, on aime ça t'avoir en studio de toute façon. Alors, on pensait pas avoir de réaction de la Ville de Québec, alors je vais vous résumer la nouvelle qu'on a sortie en début de semaine et ensuite on va pouvoir vous résumer les propos du maire à ce sujet. En début de semaine, on a publié, en fait, l'échéancier initial qui était prévu pour le projet de tramway. C'est l'échéancier qui avait été décidé à l'époque avec les libéraux. C'est un échéancier qu'il faut dire est déjà sur la voie rapide. C'est-à-dire que le projet de tramway, dans l'ensemble et présentement, il va déjà plus vite qu'un projet d'infrastructure comme celui-ci en temps normal. On a décidé de sauter plusieurs étapes parce que, bon, entre autres, à Québec, on était un des derniers endroits à ne pas avoir de projet de réseau de transport structurant. Puis, pour différentes raisons, ça a été accepté. On l'a accepté aussi. Merci, bonsoir.
Alors, il y avait des raisons politiques là-dedans,
voilà.
C'est pas mal certain.
Absolument.
On s'entend que les libéraux se sont collés à l'époque sur Régis Labeaume parce
Absolument.
Que c'était de bon aloi de le faire et on pensait peut-être aller chercher du capital politique de cette façon-là.
Un peu, peut-être. Et selon cet échéancier-là initial, il y avait deux étapes importantes, en fait, sur lesquelles nous, on misait beaucoup pour la nouvelle. C'est l'étape de l'appel de proposition qui devait se faire en novembre 2020. Donc, en novembre, dans quelques mois. Et après l'appel de proposition en novembre 2020, il y aurait un petit peu plus d'un an qui allait s'écouler pour qu'on se retrouve en février 2022 au moment où on allait signer le contrat pour la fabrication et la production du tramway.
Avec le consortium qui aurait été responsable de l'ensemble des travaux majeurs du tramway.
Ça, c'est initialement ce qui était prévu comme échéancier. Faut savoir qu'en février 2022, si c'est à ce moment-là qu'on signe le contrat du tramway, ça veut dire qu'on passe à travers la campagne électorale municipale alors qu'on n'a pas encore de projet de tramway officiellement signé. Je pense que ça aurait été une campagne électorale qui aurait été plus difficile pour M. Labeaume si jamais il avait l'idée de se représenter. Ça, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'il y aurait eu plusieurs questions et il y aurait eu plusieurs comptes à rendre au niveau du projet de tramway pour lequel on a l'impression que l'appui de la population est de moins en moins là. Par contre, ce qu'on a appris, c'est que la Ville de Québec a demandé en mai dernier à la CAQ, au gouvernement, donc, de changer l'échéancier du tramway qui était prévu. En fait, on voulait voulait s'assurer que le projet de tramway serait canné et blindé au moment où l'élection municipale allait être déclenchée.
L'espèce de point de non-retour.
Voilà. Donc, on a demandé à ce que l'appel de proposition se fasse au mois d'août, donc ce mois d'août ici, et ainsi la signature du projet se ferait au mois de septembre 2021. L'élection municipale, la prochaine, a lieu en novembre 2021.
Le 7 novembre 2021, plus exactement.
Et vous comprendrez qu'une fois que le projet est signé, peu importe si M. Labeaume est défait aux prochaines élections ou le prochain maire ne veut pas du projet, tu ne reviens pas en arrière, il est signé, c'est fait.
Bien dur de rentrer la pâte à dents dans le tube.
Très difficile. Et là, on se demandait pourquoi M. Labeaume et l'administration de la Ville de Québec voudraient, amené le projet de tramway un petit peu plus tôt. Pourquoi on voudrait accélérer l'échéancier? Ouais. C'est une question que la CAQ se posait également lorsqu'ils ont reçu la demande de la Ville de Québec au mois de mai, question pour laquelle ils n'ont pas obtenu de réponse. Pas de réponse claire, en tout cas. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, ils ont été très, très surpris d'entendre le maire Labombe parler lors d'un conseil de presse lorsqu'il disait que ça s'appréciait beaucoup pour le projet de tramway, puis M. Legault devait pas réfléchir très, très longtemps sur les modifications qui ont été apportées au tramway, parce qu'au mois d'août, ça en venait une étape très importante, oui. Et on voulait pas être en retard. Et là, la CAQ a dit, excusez, là, mais c'est parce que le mois d'août, c'est pas là où on a une étape importante. L'étape importante est au mois de novembre, lorsqu'on a l'appel de proposition. Et c'est là qu'on m'a informé que le nouvel échéancier qui avait été proposé par la Ville de Québec n'avait pas été accepté par la CAQ. Du moins, pas pour l'instant. Voilà. Il avait été mis sur la glace. Alors, ils ont été surpris d'entendre M. Labombe parler comme si c'était un acquis que le nouvel échéancier avait été accepté. Et là, nous, notre question, c'était pourquoi M. Labombe voudrait accélérer l'échéancier? Pourquoi on veut signer le projet avant l'élection municipale?
Et il y a eu une réponse à ça parce que ce matin, Régis Labombe était en point de presse pour l'inauguration du nouveau marché public de Sainte-Foy. Et il a avoué, il a été franc. Il a mentionné, et je cite, c'est le Journal de Québec qui rapporte ses dires, « Oui, on a devancé l'échéancier. On s'est dit, en même temps, ce serait le fun que ça soit tout réglé aux prochaines élections pour mettre ça derrière nous autres. »
C'est très honnête.
Tu peux pas être plus honnête que ça.
C'est très, très honnête, c'est sûr. Écoute, c'est très, très clair. Voilà.
Ça, mais il n'est pas allé jusqu'à dire que c'était pour éviter que une autre administration puisse mettre à mort le projet si elle était élue le 7 novembre 2021.
C'est pas ce qu'il a dit.
Et il faut le mentionner, il l'a clairement dit, il doit obtenir le décret gouvernemental pour procéder selon cet échéancier souhaité, ce qui n'a pas encore été réglé. Donc, c'est exactement la même version que les informations que tu avais obtenues.
Alors, on a eu une réponse au moins à notre question. C'est une question, je pense, qui était légitime de poser. Puis, je suis très contente que le Journal de Québec l'ait posé en passant. Là. Fait que, voilà. Tirez-en vos propres conclusions. Il n'a pas dit du tout que c'était parce qu'il voulait sauver le projet pour pas qu'un futur maire vienne mettre des barrières sur le projet. Il a dit que ce serait juste le fun que ce soit derrière nous pour les prochaines élections.
Et je pense que hier, ma manchette, c'était « On n'assiste pas à une partie de balle donnée ». Ben, je vous dirais qu'encore aujourd'hui, ça s'est poursuivi lors des audiences du BAP. Je vous explique pourquoi très rapidement. C'est que la Ville de Québec avait déposé deux documents sous scellés au BAP en disant « On veut que ça reste confidentiel. On a des raisons pour lesquelles on souhaite que ce soit confidentiel, donc on aimerait ça que vous puissiez les garder confidentiels. » Sauf que dans le cas du BAP, le BAP, il est indépendant. Et ce qu'il a décidé de faire, dans le cas notamment de la carte des expropriations, on a dit « Non, l'intérêt public est plus grand que les dommages que pourrait subir la Ville de Québec avec son projet. Donc, on va rendre ça public le 16 juillet prochain à 9h. » Et là, il y avait une décision qui était attendue également concernant le dossier d'affaires. Dossier d'affaires qui, soit dit en passant, a été demandé à maintes reprises à l'administration Labombe par les journalistes qui couvrent le municipal.
Dossier d'affaires, il y a quoi là-dedans, mettons?
Dossier d'affaires, là, il y a les estimations.
OK.
Notamment, à peu près, combien va coûter combien qu'on estime que va coûter le tunnel.
OK.
Il y a une espèce de budget préliminaire ventilé. Donc ça, c'est quelque chose que là, on ne voulait pas nous donner du côté de l'administration municipale et du bureau de projet. Parce qu'on disait, si on fait ça, ben c'est qu'on dit à peu près à tous les entrepreneurs qui vont vouloir postuler, voici combien qu'on est prêt à payer.
C'est un petit peu logique, par contre, comme argument, non? Ou en affaires, mais
ça peut se valoir. Ça peut se valoir, effectivement. Sauf que là, le BAP en a décidé autrement, a dit non, ça aussi, on va le rendre public. Mais sachez que la Ville de Québec a le droit de contester la décision du BAP. Mais une chose que l'on se rend compte, c'est que ça va pas nécessairement bien depuis le début. Il y a des demandes qui ont été formulées par le BAP. Le BAP dit qu'il y a des documents qui sont incomplets, notamment au niveau de l'achalandage. Les documents que vous voulez qui restent confidentiels, désolé, ils ne le seront plus parce que nous, on juge que c'est d'intérêt public. Donc, on voit que ça se passe pas comme l'administration Labombe l'aurait souhaité dès le départ.
Ouais, c'est plus
compliqué.
Pourquoi
ça se passe comme ça?
Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dans le choix des gens qui mènent actuellement le bureau d'audience publique parce qu'il y a une sélection qui a été faite? Est-ce que ce sont des gens qui, eux, disent, ben, regardez, on a besoin d'avoir plus de transparence dans ce dossier-là, peut-être pour que les gens, à un moment donné, finissent par appuyer le projet ou pour que les gens sachent pourquoi on va dépenser 3,3 milliards de dollars dans un projet comme celui-là, quels sont les avantages et tout ça, et pourquoi on va payer une somme comme celle-là. Fait que, est-ce que c'est ça? Est-ce que il y a quelque chose de politique derrière ça dans les nominations qui ont été faites et on essaie de donner la vie dure au projet? Mais tout ce que je sais, moi, actuellement, c'est que du côté de la coalition Avenir Québec, là, les élus, le gouvernement, on est en mesure, là, actuellement, de faire suer l'administration la bombe si on le veut, parce que sachez une chose, que si on décide de ne pas donner le décret gouvernemental, ouais, là, pour le fameux échéancier devancé, là, ça pourrait nuire grandement au projet. Mais surtout à la veille d'une élection municipale. Fait que, et on les entend pas beaucoup sur la place publique. Est-ce que c'est leur souhait? Je veux pas leur prêter d'intention. Ouais. Sauf que, sachez une chose, actuellement, le gouvernement Legault, c'est lui qui a le gros bout du bâton.
C'est parce que, il me semble, de tout ce que j'entends là, il y a pas beaucoup de lien avec l'environnement, c'est-tu moi?
C'est une maudite bonne question, François.
Ouais. Oui, vu de même, effectivement. Mais,
c'est vrai que c'est supposé tellement...
Ben, c'est ça, là. Je cherche l'environnement depuis le début, je le trouve pas, là.
Excusez, j'ai-tu mal compris l'acronyme?
Mais je pense qu'ils ont un mandat un peu plus large, ouais, qu'uniquement l'environnement. Puis là, c'est ça. Ils ont de l'air vraiment... Tu sais, le diable est dans les détails, mais eux autres, là, actuellement, sont pas mal dans les détails, là.
Tu m'as fait rire, François. Ben, très drôle.
Excuse-moi.
C'est vraiment très drôle. 25226, si vous voulez ajouter quelque chose, il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est que je suis pas sûre que M. Labombe passe de très, très belles nuits présentement par rapport à son projet. D'après moi, il est pas content de comment ça se passe. Il doit commencer à se dire que est-ce que ça se pourrait, est-ce que c'est dans le domaine du possible que le tramway ne se réalise finalement pas? Bon, voilà.
Et il y a la portée du projet maintenant en disant qu'on va peut-être avoir un tramway raccourci si jamais, au moment où on va ouvrir les enveloppes, on arrive à des soumissions qui sont plus élevées qu'attendues. C'est où qu'on va couper? Pas dans le coin de Sainte-Foy, on va couper dans le coin de Charlebourg. Et oubliez pas une chose, une des conditions qui a été imposée par la coalition Avenir Québec pour que ce projet-là soit appuyé par l'actuel gouvernement, c'était de desservir les banlieues. Si on coupe dans le secteur de Charlebourg, parce que c'est là qu'on va couper. On ne coupera pas à Sainte-Foy parce que le centre d'entretien va être à Sainte-Foy. Il faut quand même bien que les tramways ils se rendent jusque là-bas. Il ne pourra pas, sinon.
Et François, pour ton information, on nous souligne au 25226 que le BAP doit aussi valider l'acceptabilité sociale. Alors, c'est juste que là qu'il peut aller. Oui, là, il est là-dedans. On n'est pas dans l'environnement encore. On va y venir dans l'environnement. 16h56.
Salut, c'est Steph Dupont. Là, je suis parti en vacances. En réalité, je suis pas vraiment parti. Je suis en vacances parce qu'on peut pas aller nulle part. Fait que je suis resté ici. Mais je suis en vacances. Je reviens le 3 août. Je vais sûrement avoir des anecdotes à vous raconter parce que je vais être pogné avec la visite de Banane, Tipette, Groupe des Nez, boum, toute la gang. On va avoir quand même plein d'histoires à vous raconter à notre retour. Et oui, le 3 août, au matin, un peu poqué, mais je vais être là. D'ici là, amusez-vous. Oubliez pas de profiter de la vie. Salut les peureux!
Golf Lobinière, c'est l'excellence à prix abordable. Un club, trois parcours, grande terrasse avec vue sur le golf. Laissez-vous charmer par l'ambiance chaleureuse et conviviale. Venez découvrir ou redécouvrir Golf Lobinière. Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20 à 15 minutes des ponts.
Tanné d'entendre ronfler? Votre sommeil n'est pas récupérateur? Vous êtes irritable au lever? L'Institut esthétique de Québec a la solution. Le soin de ronflement par laser. Super promo. 699 $ pour un temps limité. L'Institut esthétique de Québec.
Le Québec, c'est 31 parcs nationaux à explorer. Profitez-en au volant de la Forester 2020 avec système EyeSight de série, lauréate d'un prix IIHS, meilleur choix Sécurité Plus 2020. Subaru. Confiance et évolution.
Bonne nouvelle! Tous les doulis sont maintenant ouverts avec tous les services. Et encore plus alléchant, on a une promotion Body Burger à 15 $. Que demander de plus? On est grand avec beaucoup d'espace pour vous recevoir chez Doulis.
Vous faites du commerce en ligne et vous contribuez à l'essor de l'économie québécoise? Inscrivez-vous à la liste des entreprises de commerce en ligne québécoise et faites-vous connaître. Cette initiative de Cogeco Média vous permet de figurer sans frais sur une liste qui sera mise à la disposition des consommateurs via notre site Internet. Pour vous inscrire, rendez-vous au fm93.com. Et si vous remplissez les conditions, le nom de votre entreprise sera ajouté à la liste. Plus de détails au fm93.com.
Tu viens de passer ta journée à travailler sur ton terrain puis t'as envie d'une bonne bière froide. T'ouvres le frigo? Comble de malheur, y a plus de bière! Ta série commence dans 10 minutes. Tu te vois déjà habillé en mou, savourant la douce amertume de ta boisson fermentée. Relax, il suffit de sortir et de faire quelques pas.
Parce qu'avec près de 700 couches tard partout au Québec, la bière est toujours à portée de main. Et si t'achètes deux caisses de format 24 ou plus, tu reçois 15 $. Couches tard. Simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Tout le monde en parle.
Citadel Chevrolet.
Citadel Chevrolet.
C'est chez Citadel Chevrolet.
Citadel Chevrolet, la référence à Québec. Profitez de la grande liquidation des 2019. Buick Encore 2019, 12 000 km, seulement 19 995 $, un rabais de 8 630 $. Spark LS 2019 automatique en liquidation au prix exceptionnel de 14 695 $. Ici, les véhicules d'essai sont désinfectés avant et après l'essai. Et nous fournissons les masques.
Citadel Chevrolet.
Citadel Chevrolet.
Tous les détails chez Citadel Chevrolet à Lévis.
Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
Tous contre un. Tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Guillaume. Je suis parti en camping avec mon nouveau Tucson. Mais je vous invite à profiter de la vente Les Beaux Jours de Hyundai pour bénéficier d'une baisse de nos taux d'intérêt et obtenir un financement à 0% sur tous les nouveaux modèles. De plus, achetez en toute confiance avec un report des paiements de 6 mois à l'achat de tout nouveau véhicule. Vous pouvez même magasiner en ligne dans le confort de votre foyer grâce à Achat Express Hyundai. Visitez un concessionnaire Hyundai pour profiter de l'été. Bon, ma guitare. La vente Les Beaux Jours.
Des conditions s'appliquent. Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.